Bonjour et bienvenue sur le podcast Jurinova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnelle PNL certifiée, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jurinova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jurinova, les interviews et témoignages des professionnels du droit. Ils nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreux et nombreux parmi les juristes talenteuses et les juristes talentueux à suivre le podcast Jurinova et à avoir apprécié donc le premier interview de Delphine Bordier sur le thème de directrice juridique à LegalOps lors de l'épisode 42 du podcast Jurinova. Le second interview de Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique lors de l'épisode 49 du podcast Jurinova. Et le troisième interview de Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années, nous a partagé son expérience de juriste et LegalOps lors de l'épisode 53 du podcast Jurinova. J'espère donc que ces interviews et partages d'expériences vous apportent de l'inspiration pour votre propre évolution et vos propres choix de carrière. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova et lui donner de la visibilité pour inspirer d'autres juristes également. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Nouria André, directrice juridique de Voltalia depuis 2017, qui nous partage son parcours et sa carrière sur la thématique suivante, de juriste à directrice juridique. Elle répond avec précision et clarté à ces 5 questions. Première question, pourquoi le droit? Deuxième question, pourquoi ce secteur d'activité? Troisième question, quel a été son parcours pour en arriver là en qualité de directrice juridique? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de juriste généraliste ou juriste expert à directrice juridique et la dimension managériale qui l'accompagne. Cinquième question, quel intérêt et valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise? C'est parti, nous allons découvrir ensemble son parcours. Bonjour à tous, chers juristes talentueuses et juristes talentueux. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une interview et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Nouria André, directrice juridique de Voltalia depuis 2017 et membre du Cercle Montesquieu également. La thématique que nous allons voir ensemble aujourd'hui est la suivante, de juriste à directrice juridique. Nouria, je vous propose de vous présenter.
Bonjour Cynthia.
Bonjour Nouria.
Voilà, je suis très contente de faire cet entretien avec vous et très honorée que vous m'ayez sollicité.
Avec plaisir.
Donc, effectivement, je suis directrice juridique de Voltalia, qui est une société de taille intermédiaire, plus de 1400 salariés. C'est une société familiale, mais également cotée en bourse. Et c'est une société qui produit de l'énergie, des sources renouvelables. Hein. Solaire, éolienne, petite hydro aussi, la biomasse, de l'estockage, et qui a une activité également de construction et maintenance des centrales de production d'énergie, mais pour les comptes des clients tiers. Donc, j'ai commencé, comme vous l'aviez dit, en 2017. Arrivant chez Voltalia, on était 7 juristes en tout, sans lien entre nous, puisque les juristes étaient rattachés directement à des business lines, un petit peu répartis dans des différentes géographies du groupe. Et depuis, excusez-moi, on est actuellement à presque une trentaine de juristes. On a accompagné la croissance du groupe, de la société, certaines acquisitions externes et puis un fort développement en termes de chiffres d'affaires et d'activité. Si je vous donne un peu plus de détails, on a structuré la direction juridique en regroupant les juristes par compétences. Et donc, on a une équipe qui suit toutes les activités de développement et de ce qu'on appelle les projets des IPP, Independent Power Producer. Donc, tout ce qui a à voir avec le développement des projets en propre de Voltalia pour la construction, pour arriver à avoir des centrales qui vendent de l'électricité, qui est la source des revenus au cœur de Voltalia. On a une équipe qui est dédiée plutôt à sa activité au support juridique, à sa activité de construction et d'exploitation et maintenance de ces centrales, que ce soit nos centrales propres, qui ont des terrains propres dans nos actifs, dans notre bilan, ou que ce soit des centrales qui ont construit pour le compte des clients tiers. On a des juristes corporate, un département corporate qui est en lien avec tous les juristes des différents pays qui font aussi du droit des sociétés. Et on avait jusqu'à récemment aussi au sein de la direction juridique un pôle des juristes conformité. Mais au vu de la croissance de la société, de la complexité des affaires, la direction conformité s'est scindée de la direction juridique. Et actuellement, je garde la responsabilité de diriger les juristes. Comme je disais, une trentaine répartis dans le monde, dans les différentes géographies, Amérique latine, Afrique, Europe, évidemment. Et puis, avec un double rattachement envers moi, certains en hiérarchique, avec un rattachement fonctionnel au patron des business et d'autres en rattachement fonctionnel envers moi et avec un rattachement hiérarchique plutôt au patron du business en fonction des enjeux et de la distance géographique par rapport à Paris, ainsi que de l'appétence des différents patrons de business par la direction juridique, c'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent avoir des juristes à leur service directement, il y en a d'autres qui préfèrent ne pas avoir à gérer les juristes et faire plutôt appel à une direction juridique centrale. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient en termes de présentation pour commencer, Cynthia.
Oui, très bien. Merci, Nouria. C'est très précis. L'activité a été structurée, donc si j'ai bien compris, depuis 2017 par vous-même. Vous étiez 7 au départ et maintenant vous êtes 30, hein, si j'ai bien compris. Il y a une certaine flexibilité dans l'organisation puisqu'il y a du rattachement fonctionnel à vous ou au directeur de business et des rattachements hiérarchiques à vous-même ou alors au directeur de business en fonction de leur appétence pour le droit. Et vous avez donc récemment, si j'ai bien compris, scindé la direction compliance de votre direction juridique en raison des enjeux et de la croissance, hein, je pense, de votre groupe, de votre entreprise.
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
D'accord, bah merci pour cette présentation très précise parce que ça permet justement de voir comment on grandit une direction juridique, comment on la structure. Et où vous en êtes, hein, depuis 6 ans maintenant en poste, vous avez donc construit et fait grandir cette direction juridique. Donc, merci à vous pour votre partage de cette vision de votre entreprise et dans le monde des énergies renouvelables. C'est toujours très intéressant et très porteur de nos jours.
Tout à fait.
Merci, Nouria. Donc, je vous propose de poursuivre. Donc, le thème de ce podcast est de juriste à directrice juridique. Et Nouria va répondre à 5 questions que l'on a définies ensemble. Donc, je vais déjà vous présenter ces questions et puis ensuite, Nouria va nous expliquer et nous répondre et nous apporter des éléments de solution et des exemples de par son parcours. Donc, premièrement, nous allons nous intéresser à pourquoi le droit. Ensuite, pourquoi ce secteur d'activité des énergies renouvelables. Troisièmement, quel a été votre parcours, Nouria, pour en arriver là en qualité de directrice juridique. Quatrièmement, pour ceux qui sont intéressés, donc les juristes talentueuses et les juristes talentueux qui nous écoutent, comment peut-on évoluer de juriste expert à directrice juridique et acquérir cette dimension managériale qui accompagne la fonction de directrice juridique, puisque la fonction managériale est inhérente à la fonction de directrice juridique. Et cinquièmement, quel intérêt et quelle est la valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise. Et quand je dis associé, c'est-à-dire associé en amont, hein, bien entendu, des business. Voilà, est-ce que Nouria, ça vous convient?
Bah, tout à fait, c'est
tout à fait. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pourquoi le droit, Nouria?
Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi les droits? Alors, je pense que ce qui m'a fait aller vers les droits, c'est ma personnalité à la base. Je suis plutôt rationnelle, hein, quelqu'un de cartésien. J'ai un certain goût pour la logique et pour la recherche du bon sens. Et je pense que contrairement aux idées reçues, le droit est une matière, je dirais presque mathématique, ou en tout cas, la logique et le raisonnement, jouent un rôle très, très important. Et plus aujourd'hui, où l'accès à l'information juridique, bah, elle est là, l'accès est très facile par les biais de l'Internet, hein, tout simplement. On peut avoir n'importe quelle consultation juridique, on trouvera une réponse sur Internet de manière assez facile. Ce qui fait que du coup, les juristes, on n'est pas, et les professionnels des droits, on ne doit pas être des disseurs des droits, on doit plutôt être, il me semble, des analyseurs des situations, des analyseurs des faits, ou des faits plutôt. Et je m'excuse, je profite pour m'excuser de mon petit accent. Je suis de nationalité espagnole, d'origine espagnole, et il n'y a pas moyen de m'en défaire de cet accent. Donc voilà, vous serez compris.
Merci. Merci Nouria, ça chante. Moi j'adore votre accent. Ça chante, vous nous emmenez le soleil, donc merci beaucoup.
Bon, je ne fais pas exprès, je n'y peux rien. Voilà. Donc, ce que je disais plus sérieusement, c'est que les juristes doivent être des stratèges, hein, il me semble, pour rechercher des solutions ou pour optimiser et sécuriser des projets. Et je pense que ça reste valable, que ce soit en matière de droit commercial, évidemment, hein, en droit des affaires, mais aussi en droit civil, aussi en droit pénal. Et aujourd'hui, on voit comment le droit pénal des affaires connaît un développement impressionnant, hein, ce qui est le résultat aussi des nouveaux moyens dont la France est dotée en matière de lutte contre la corruption, par exemple. Hein. En droit public aussi, il faut savoir être stratège. Voilà, pour moi, le droit, ce n'est pas ou ce n'est plus une matière à prendre par cœur. Hein. C'est plutôt un enjeu qu'il faut savoir appréhender. Et les juristes, on doit être là pour faciliter cette appropriation du volet juridique de la vie, que ce soit la vie privée ou que ce soit la vie professionnelle. Par les non-juristes. D'autre part, aussi, ce qui m'a fait aller vers les droits, c'est mon ambition de servir hein, au sens noble du terme. Hein. Donc, servir dans le sens d'aider ou de contribuer ou d'être utile à une cause, à un objectif. Et dans le cas des juristes, c'est par le biais de l'apport d'un éclairage juridique nécessaire pour qu'une cause ou cet objectif avance dans le bon sens. Alors, une fois que j'ai dit ça, pourquoi je suis en entreprise? Pourquoi je ne suis pas avocate ou je n'en sais rien, notaire ou procureur ou juge? En fait, pour moi, l'entreprise m'est apparue comme l'endroit idéal pour m'épanouir parce que tout simplement, j'ai toujours adoré les travaux en équipe et ça date depuis toujours. Hein, déjà dans mon enfance, je raconte quelque chose d'un peu plus privé, mais quand j'étais nageuse, j'ai gagné quelques médailles dans ma vie. À mon niveau, c'était pas à niveau national, mais le bonheur de gagner des médailles, en fait, il était multiplié par 4 lorsqu'on nageait les relais. Et c'est ça qui me plaît. C'est d'être, de faire partie d'un corps plus grand, d'être travailler avec des personnes qui ont d'autres regards, d'autres perspectives, d'autres approches, en mentalité ou point de vue, ce qui est toujours enrichissant. Et ça, je pense que c'est une qualité essentielle pour être juriste en entreprise parce que on doit avoir des qualités d'écoute et d'empathie. On doit pouvoir se mettre dans la peau de la personne qui sollicite nos conseils. Et de comprendre la personne qui est en face de nous, quels sont ses besoins et quelles sont ses contraintes. Voilà, je trouve tout ça en entreprise. C'est vrai qu'au début de ma carrière, donc avant d'être maman, donc ça commence à dater un petit peu, j'ai travaillé, j'ai fait du bénévolat pour plusieurs ONG en France, mais aussi à l'étranger, en Argentine notamment. En matière d'éducation populaire au droit. Donc, la question de la pédagogie, elle était déjà présente lorsque j'ai commencé mon métier. aussi en matière de conseil en droit de la famille, à des femmes ou en droit des étrangers. Et donc voilà, j'aurais pu en fait, j'aurais sans doute voulu continuer aussi dans cette activité, mais malheureusement la rémunération n'est pas là. On est un petit peu rattrapé par les principes de réalité.
Oui.
Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de travailler à une ONG, de pouvoir en vivre. À l'époque, ça ne l'était pas. Je dis à l'époque, je parle des années 90.
Oui.
Donc, je commençais directement ma carrière professionnelle à l'entreprise, au cœur du business, même si j'étais pour une grande partie de mes années de commencement de carrière, je travaillais à temps partiel. Et donc, je continuais à travailler dans des ONG tous les vendredis, notamment, pendant
Oui,
quelques années.
d'accord. Donc, vous aviez conservé cette partie d'activité bénévole au sein des ONG.
Tout à fait, que j'aimerais aussi reprendre bien plus tard quand je serai à la retraite.
Quand vous serez à la retraite. D'accord, revenir à vos premiers amours.
Voilà.
OK. D'accord, donc on retient que le droit pour vous permet d'être stratège en entreprise, hein. C'est ce que j'ai retenu et que de par votre esprit cartésien et logique et mathématique, hein, donc ça vous apporte énormément aussi pour analyser les situations, faire preuve d'écoute et d'empathie pour bien cerner les enjeux et donc apporter des solutions qui répondent au plus près aux besoins de vos interlocuteurs dans les business, hein, dans les
Tout
différents
à fait.
business.
Tout à fait.
D'accord. Et pourquoi ce secteur d'activité, Nouria?
Alors, les services à l'environnement, l'eau, les énergies ont toujours été mon domaine de prédilection. Et dans ce type de société où j'ai travaillé et je travaille toujours, un projet, ce n'est pas qu'un concept ou ce n'est pas le produit d'une activité purement intellectuelle. C'est aussi une station d'épuration de WC ou d'eau potable. C'est une centrale de production d'énergie renouvelable. C'est des chantiers qui contribuent à la protection de l'environnement au sens large et au développement durable. Et puis, la dernière société qui m'emploie, hein, on parle de Voltalia, c'est une entreprise à mission, au sens juridique du terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle affiche des engagements. C'est des engagements qui sont contraignants et qui sont auditables, hein, en matière d'accès à une énergie décarbonée, en matière de développement des territoires, nos projets sont implantés, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, et en matière de préservation des ressources de la planète. Et franchement, c'est un motif de fierté pour moi de dire que je travaille dans un tel secteur. Et aussi en tant qu'ancienne directrice de la conformité de cette société, je pense qu'avec l'équipe conformité, on a vraiment contribué à cette mission. Par exemple, hein, je vous donne un exemple, on faisait une sélection très exhaustive des fournisseurs et des prestataires des services, en vérifiant et en validant que ceux qui pouvaient prouver le respect des droits humains ou le respect de l'environnement, donc avec des engagements en termes des droits des syndicats, respect des horaires de travail en matière des rejets, rejets polluants par exemple. Et cette sélection faite sur la base de ces grilles, ces critères, pas que Voltalia évidemment, mais plus on est des sociétés nombreuses à suivre ces critères de sélection, plus on pousse justement aux sociétés, que ce soit en France ou ailleurs, à monter leurs standards en termes de respect des droits humains et de l'hygiène aussi, sécurité de ses salariés ou du respect des droits de l'environnement. Et donc, quelque part, on contribue à ces objectifs que je pense qu'ils sont plutôt louables. Alors, j'ai travaillé aussi dans le passé pour des sociétés de distribution, mais il est vrai qu'il y a à ce côté des créations, des valeurs ajoutées d'une société de construction qui me plaît, qui me motive, bien plus que des activités d'échange ou de commerce. Alors, ça vient peut-être aussi de mon enfance. Mon père, il était avocat à la base, pénaliste de formation. Il a toujours travaillé comme entrepreneur et il avait une usine de briques. Et il en était fier de participer à la construction, pour le coup, au sens primaire de la construction, avec sa fabrication des briques. Et voilà, ça a toujours été un motif de fierté pour lui. Et je pense que j'ai hérité aussi de sa part cette envie de participer à la construction de quelque chose qu'on voit pousser des terres.
D'accord, merci. Donc, il y a une filiation naturelle qui s'est faite autour de la construction.
Voilà, on va dire ça, on peut dire ça.
D'accord. Merci pour ces précisions et on sent votre engagement et votre volonté de défendre les droits humains, de défendre l'environnement. On sent une fierté de pouvoir travailler dans ce type d'environnement et de respect de ces critères. Donc, merci pour ce partage. Et maintenant, Nouria, quel a été votre parcours pour en arriver là en qualité de directrice juridique?
Alors, logiquement, Cynthia, c'est l'expérience,
Oui.
c'est aussi la persévérance et j'allais dire malheureusement l'âge.
Ou heureusement, tout à fait heureusement également.
Oui, bon, il n'y a pas que des côtés positifs dans l'âge. Bon, je blague un petit peu quand même. Mais il est évident qu'il faut un certain nombre d'années d'expérience avant d'arriver en poste de directeur ou de directrice juridique et pas seulement à cause de sa dimension managériale, hein, dont je pourrais vous en parler après, enfin, ma vision. Mais je pense qu'on n'est pas directeur ou directrice sans avoir quand même vécu un certain nombre d'expériences en entreprise. Déjà, qu'on a commencé comme juriste, qu'on a regardé comment nos prédécesseurs ou nos anciens directeurs juridiques ont ouvré, on s'en est inspiré, et j'ai eu des excellentes sources d'inspiration, en tout cas, en ce qui me concerne. Puis, il faut faire ses preuves. Et puis, à un moment, on devrait pouvoir arriver à un stade où l'on peut se positionner en tant qu'expert, pas tellement en tant qu'expert technique, mais aussi en tant qu'expert de la gestion des situations ou des projets ou des personnes. Et du coup, on trouve qu'on peut naturellement parler d'égal à égal avec les dirigeants d'une société ou de sa société. Donc, de mon côté, je pense que j'ai eu un parcours plutôt classique dans le sens que, voilà, je commençais comme juriste, comme je disais, au sein d'une grande entreprise qui avait une équipe juridique de qualité. Importante était à l'époque le directeur juridique et l'un des anciens présidents pardon de l'Association française des juristes d'entreprise.
Pour moi, c'était la FJE, hein, c'est ça.
La FJE, voilà.
Oui, tout à fait. D'accord. Merci.
Pour moi, c'était la meilleure université. Évidemment, j'ai fait du droit en Espagne, j'ai fait du droit en France, mais j'ai vraiment commencé à apprendre au sein de cette direction juridique. J'ai évolué vers des postes de responsabilité, des juristes responsables directement d'une géographie précise. Bon, dans mon cas, c'était l'Amérique latine. L'Amérique latine, ça comprend aussi le Brésil. Hein. Au Brésil, c'est le portugais, mais je parle portugnol. Donc, c'est le portugnol qui est le mélange entre le portugais et l'espagnol. Enfin, je peux travailler en portugais aussi.
D'accord.
Je profite pour dire, évidemment, en plus de l'anglais, mais l'anglais, c'est comme lire et écrire. Hein. On ne peut pas prétendre actuellement être juriste en entreprise sans savoir parler l'anglais, l'écrire, négocier en anglais, s'exprimer en anglais.
D'accord.
Absolument. Et puis, en évoluant, en changeant de société aussi, j'étais rattachée directement à un directeur opérationnel. Après, je pense, plus de 10 années de rattachement à des directeurs juridiques. Et en tant qu'à ce moment-là, directrice juridique d'une business line à l'intérieur d'une société, d'une grande société, les goûts pour mon rôle de directeur juridique est venu de là, de cette expérience, d'être directement rattachée à un patron business, pouvoir l'accompagner directement, l'éclairer, devenir presque indispensable pour lui, pour les équipes, ce qui est pour moi une source de satisfaction énorme. Alors, en complément à Cynthia, je pense aussi que ça m'a aidé dans ma carrière, le fait d'avoir travaillé à l'étranger. J'ai travaillé à Bruxelles d'abord en tant que juriste senior, au sein des sièges européens des sociétés américaines. Ça m'a aussi permis de connaître la culture américaine. J'ai travaillé à Glasgow, en Écosse, dans une filiale d'un grand groupe français des services à l'environnement, dans ce cas-ci. Et tous ces déplacements, en fait, je les ai faits en suivant mon mari, mais heureusement, j'ai toujours pu garder un fil conducteur dans ma carrière. J'ai toujours pu trouver des postes intéressants et cohérents avec mon parcours. Et j'ai eu de la chance. Bon, j'ai aussi évidemment cherché à les faire. En tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que l'expérience internationale est un grand atout et que je vous la recommande vivement. Encore plus, on n'a pas pu étudier à l'étranger. Et oui, donc en fait, Cynthia, pour conclure, je pense que pour devenir directeur juridique, il faut avoir fait ses preuves, il faut le faire en continu. Ça nécessite avant tout du temps et de l'expérience. Bon, après, il y a toujours les précoces, mais cela n'a pas été mon cas.
D'accord. Donc, ce que je retiens de ce partage, c'est qu'il y a une dimension fortement internationale à votre parcours, hein, qui vous a marqué dès le départ, en fait, avec cette découverte de la culture américaine. Vous avez également pu avoir des mentors et des personnes inspirantes en tant que directeur juridique dont vous avez pu vous inspirer par la suite, qui
Absolument.
Vous ont apporté et donné un cadre pour évoluer, pour grandir, quand vous nous dites notamment que c'était la meilleure université pour vous. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la richesse d'un parcours également. Quand on a des accidents de parcours, je dirais, avec des personnes qui ne sont pas mentors, ça peut être difficile à vivre également pour des juristes. Et donc, quand on choisit bien ces environnements professionnels avec des personnes leaders, des directeurs juridiques qui ont déjà de l'expérience, hein, elles-mêmes, bah, ces personnes peuvent apporter énormément aux jeunes juristes et donc construire les bases chez ce jeune juriste d'un futur ou d'une future directeur ou directrice juridique. Donc, merci. C'est ce que vous faites, vous, dans votre quotidien, d'ailleurs, puisque vous êtes maintenant directrice juridique. Donc, vous inspirez fortement vos équipes, j'imagine, au quotidien.
Je l'espère, en tout cas.
D'accord. Merci pour ces précisions et ce partage. Donc, on va poursuivre. Alors, pour ceux qui sont intéressés, hein, les juristes talentueuses et talentueux qui nous écoutent, comment peut-on évoluer de juriste expert à directrice juridique et intégrer cette dimension managériale qui l'accompagne?
Alors, question complexe et facile à la fois.
Oui.
Alors, je vais décliner en plusieurs volets, Cynthia, si vous voulez. Moi, je pense que tout d'abord, hein, le directeur juridique ou la directrice juridique doit être au cœur de l'entreprise et du business. Donc, par là, je veux dire qu'il doit ou elle doit connaître son entreprise en profondeur, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que non seulement elle doit connaître non seulement sa réalité, ses défis, que ce soit technique, financier, commerciaux, humain, quelles sont ses opportunités ou quelle est son ambition. Mais aussi, autant que possible, on doit connaître et comprendre les enjeux de toutes les parties prenantes. Alors, les stakeholders, on dit en bon français.
Oui.
C'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les banquiers, les actionnaires, les salariés, les populations impactées par les activités, par exemple. Donc, cela nécessite une immersion en profondeur dans les entrailles de l'entreprise, je dirais. Et je suis conscient que pas tous les dirigeants sont facilement prêts à donner cette immersion à ces directeurs juridiques pour des raisons qui parfois m'échappent. Hein. Est-ce que c'est à cause de préjugés ou d'impératifs de se voir interdire certaines actions par ces conseils juridiques ou parce qu'ils pensent que c'est une perte de temps? Mais bon, je constate aussi qu'on évolue de plus en plus vers une bonne appréhension du rôle du juriste business partner avec les nouvelles générations aussi des dirigeants par rapport à 10 ans, par exemple.
Oui. Oui, il y a une évolution que vous constatez. D'accord, ok.
Je le constate très clairement. Il y a un gap générationnel sur ce sujet.
Oui.
Ce qui va absolument dans le bon sens.
Oui, tout à fait. Comme quoi le directeur juridique est un véritable atout de par sa valeur ajoutée pour l'entreprise.
Non, absolument, complètement. Et Alors, donc si on parle des atouts, justement, des directeurs juridiques, évidemment, il faut qu'ils soient professionnels du droit. Donc, en tant que tel, on doit se connaître l'environnement juridique et réglementaire qui s'applique à la société. Alors, je vais dire des évidences. Si on est dans la distribution, on doit savoir connaître le droit de la distribution, le droit de la consommation. Si on est dans les VTP, on doit connaître la construction, ainsi de suite. D'autant plus dans des sociétés, enfin dans des métiers ou des activités fortement réglementées, comme c'est le cas des énergies.
Oui.
Évidemment, on n'a pas besoin, encore une fois, de connaître la loi par les menus détails, mais par contre, d'être connaisseur de l'environnement législatif enfin, autour duquel la société doit se développer, oui, c'est indispensable.
Oui.
Avoir après une formation MBA, c'est l'idéal.
Oui.
Pour être, parce que dire, qui dit directeur juridique dit directeur, et donc une formation en administration du business est intéressante. En tout cas, il faut aussi avoir une certaine appétence et connaissance des enjeux financiers. Il faut savoir mesurer l'apport de sa direction juridique, y compris en termes économiques ou financiers, à sa société.
À sa société. Donc, pouvoir véhiculer des indicateurs de performance financiers, notamment pour démontrer l'apport financier de la direction, c'est bien cela que vous voulez dire?
C'est exactement ce que je voulais dire, vous l'avez très bien exprimé. La direction juridique égale centre des coûts,
Oui.
non. Ça,
Ce
c'était peut-être
qui fait partie des préjugés en général.
voilà. C'est peut-être vrai il y a un certain nombre d'années, encore une fois, mais ce n'est de moins en moins. Donc, pour moi, la direction juridique doit pouvoir aussi être en mesure de montrer en quoi son apport va contribuer au succès économique de la société.
De la
Que ce
société, oui.
soit... Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de mesurer ce qui n'arrive pas. C'est-à-dire quand on évite un contentieux, quand on évite une perte, c'est difficile de mettre ça en avant, puisque par
Oui.
définition, ça n'existe pas. Mais c'est enfin, l'un des moyens ou l'une des modalités des contributions de la direction juridique quand on est associé à des projets ou à des contrats bien en amont. C'est justement de bien paver les chemins pour éviter des contentieux futurs et donc des sources de pertes pour la société.
Pour la société, voilà. Et donc
Voilà.
là, il y a tout un travail de, j'imagine, de pédagogie auprès de la direction pour quand vous enfin, quand vous intervenez beaucoup plus tôt en amont dans les dossiers, bien entendu, vu que vous sécurisez toutes les clauses, vous pouvez démontrer que vous allez éviter tel ou tel contentieux que peut-être vous avez rencontré auparavant sur d'autres dossiers.
Exactement, exactement. Et parfois, c'est vrai que c'est d'autant plus évident quand on passe une mauvaise expérience parce qu'on a un mauvais contrat, bâclé, pas bien couvert, et qui donne donc une opportunité à la contrepartie de soulever une réclamation. C'est vrai qu'on apprend quand on passe par une mauvaise expérience et les contrats futurs seront améliorés et on ne tomberait pas normalement des fois sur la même pierre. Et voilà, c'est un travail un petit peu ingrat dans ce sens que le juriste, il va être le plus conscient de ce qu'il a contribué à éviter, mais il ne
Oui.
pourra pas toujours communiquer ses messages ou les faire transparaître en dehors de sa direction juridique parce que justement, c'est un risque qu'on a évité de voir matérialiser.
Oui.
Après, on peut évidemment... mettre en avant des gains faits lors des contentieux. Ça, c'est plus visible, si
C'est
vous
plus
voulez.
visible. Oui.
Voilà, il y a plusieurs degrés de visibilité de la contribution d'une bonne direction juridique.
Mais voilà,
Mais en
et
tout cas, il y a cette nécessité de pouvoir quantifier, de pouvoir montrer. Ce qui sert aussi à négocier, par exemple, l'embauche de plus de juristes.
oui, négocier les budgets, hein, c'est ça, les
Voilà,
budgets
voilà.
pour recruter, les budgets pour digitaliser, j'imagine
Voilà,
également.
exactement, exactement.
Oui, d'accord, ok.
Voilà. Bon, les KPIs, les Key Performance Indicators, c'est tout un sujet. Il y a beaucoup de ratios qui peuvent être utilisés en entreprise, comme par exemple le pourcentage des coûts en avocat externe par rapport à l'équipe juridique interne, et voir dans quelle mesure on peut évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire sachant qu'un avocat est bien plus cher qu'un juriste en interne, comment on peut optimiser le service juridique en internalisant. Voilà, c'est toute une série de critères économiques, on va dire, qu'il faudrait savoir manier pour faire évoluer sa direction.
Sa direction, oui, d'accord. Donc, en internalisant les compétences acquises auprès des avocats au fur et à mesure des dossiers traités avec eux, pour que
par
les juristes
exemple.
montent en compétences, hein, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. OK.
Voilà, c'est un chantier qui ne se termine jamais, qui est en construction permanente, voilà.
C'est ce qui fait l'intérêt du poste.
Oui, exactement, parce que sinon, pouf, ça serait fait et on passerait à faire autre chose, n'est-ce
oui,
pas?
Tout à fait. D'accord.
Donc, voilà, on continue, si vous voulez, avec les volets, enfin, ou en tout cas les aspects qu'un directeur juridique doit avoir en tête ou doit exercer son quotidien.
Oui,
Dans son
donc
quotidien, je pense.
les soft skills, hein, je crois, maintenant,
Voilà,
vous voulez
exactement.
aborder hein, le
Voilà.
sujet qui intéresse tous les directeurs juridiques en
Voilà.
général.
Oui, et en fait, je pense que sincèrement, c'est le facteur déterminant d'une promotion vers un poste de directeur juridique. Hein.
Oui.
On ne va pas se tromper.
Oui, ce qui fait la différence hein, entre plusieurs candidats. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, c'est les attitudes personnelles, comportementales qui sont déterminantes. Hein. Il y a évidemment un besoin de trouver ce que c'est, d'avoir des capacités d'écoute, hein, on l'a déjà dit, de comprendre les besoins de ses interlocuteurs. Il faut évidemment avoir des qualités d'analyse et de synthèse. Il faut savoir voir la big picture, donc prendre du relief en mettant justement en perspective les enjeux juridiques avec les autres enjeux de l'entreprise. Et donc, être capable de faire la distinction entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, ce qui est un must-have par rapport à un nice-to-have.
Oui.
Voilà. Il faut savoir communiquer de manière claire et concise. Quoi de plus horrible d'avoir l'impression d'un juriste qui s'écoute lui-même, qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à arrêter.
Oui, un 10 heures de droit.
Voilà, un diseur de droit.
Oui.
Voilà. Il faut aussi, je pense, avoir influencé ou faire passer son avis presque en douceur, tout en ayant le courage de le maintenir, malgré le fait qu'il peut y avoir une pression exercée par les dirigeants de nous faire changer d'avis. Ça, c'est encore plus important lorsqu'on est aussi directeur ou directrice de la conformité, hein,
Oui.
parce qu'on a affaire à des affaires un petit peu compliquées. En termes des décisions à prendre qui va couvrir des aspects non seulement juridico-légaux, mais aussi réputationnels. Voilà. Et
Oui.
puis, et du coup, ce qui me fait penser aussi que si un directeur juridique ou une directrice juridique est plus que ponctuellement en désaccord avec les décisions de son dirigeant, peut-être qu'on doit quitter l'entreprise et il faut avoir le courage de la quitter. La société. Sur ça, je suis assez radicale.
Oui, quand il y a une divergence trop régulière et qui dure dans le temps, à un moment donné, il faudrait avoir le courage de la quitter, hein, c'est ça.
Je pense que c'est important de garder une certaine cohérence avec ses valeurs à soi, intime, en tant que personne, en tant que professionnel. Et donc, s'il n'y a pas une bonne communion entre ces valeurs et celles de l'entreprise ou de l'environnement dans lequel on évolue professionnellement, à la longue, ça va être préjudiciable pour l'entreprise et puis pour nous, pour nous en tant que personne.
En tant que personne. Donc, on pourrait parler d'éthique professionnelle et
Voilà, tout à fait.
personnelle.
Une
Oui.
certaine déontologie, tout à fait. Une certaine
Oui.
déontologie, une certaine cohérence avec soi-même. Et voilà.
D'accord. OK.
Et puis, pour revenir sur Cynthia, sur la dimension managériale qui vous intéresse ou qui pourrait
Oui.
intéresser particulièrement, en fait, c'est. Alors, on parle évidemment d'un directeur juridique ou d'une directrice juridique qui a des équipes, hein, donc qui peuvent être plus ou moins grandes, mais un directeur juridique, pour moi, doit être un leader hein, pour les membres de son équipe et aussi un mentor. Mentor, pas menteur.
Un mentor, ok.
Voilà.
Donc, leader et mentor, oui.
Oui, tout à fait. Alors, leader, pour moi, le leader, évidemment, enfin, pour moi, je pense que c'est l'acception commune du terme, c'est quelqu'un qui montre les chemins, n'est-ce pas, qui inspire, qui motive, qui donne les cadres, qui donne la mission, quelle est la mission de la fonction juridique dans l'entreprise, quels sont nos objectifs sur le court terme et sur le long terme. comme on avait dit tout à l'heure, en montrant par exemple les indicateurs de performance, en définissant les indicateurs de performance. Les mentors, c'est plutôt quelqu'un qui va faire monter en puissance les juristes, qui va être capable de déceler ce qu'il y a mieux en chacun des juristes, selon sa personnalité, appétence, selon les rythmes de chacun. Et donc, par exemple, si j'ai un juriste dans l'équipe qui est chevronné en négociation de contrats complexes avec des délais courts, des enjeux économiques majeurs, beaucoup d'adrénaline au quotidien, je ne pense pas qu'il ou elle serait heureux à rédiger, s'il devait rédiger des procédures transverses ou pour organiser un séminaire juridique avec des thématiques de réflexion de fond. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est fondamental. C'est que le directeur juridique doit savoir reconnaître, tenter de reconnaître l'apport potentiel de chacun des juristes et de les faire ressortir. Du coup, aussi, ça peut résulter, en fait, chacun va se sentir important de manière individuelle. Et puis, tous ensemble, ils vont se sentir meilleurs, finalement, en apportant chacun sa contribution à l'édifice de l'équipe juridique, hein, parce qu'on est une équipe, on n'est pas des individualités, on ne devrait pas être des individualités, on devrait être une équipe. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand on a quelqu'un qui ne joue pas les jeux, qui est individualiste, ou qui ne sait pas communiquer, ou pire, sectaire? Eh bien, malheureusement, quand on est manager, ça ne peut pas être que du bon, il y aura aussi du mauvais, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir prendre des décisions de se défaire de quelqu'un quand cette personne est nuisible, en fin, pour l'équipe.
À son équipe et à la cohésion de l'équipe, hein, c'est bien
voilà.
Ça.
Oui. Voilà. C'est malheureux, mais parfois, il faut prendre ce type de décision.
Oui.
Mais tout en sachant que donc, le directeur juridique doit savoir protéger son équipe et puis créer les conditions de l'épanouissement de chacun et de l'équipe.
Oui.
Donc, voilà comment je vois. Je pense que pour évoluer sur un poste de directeur ou de directeur juridique, c'est évidemment une question de goût, hein, aussi de maturité, on a dit. Et puis d'affinité pour les rôles managériels de la fonction. Ce rôle managérial, il va prendre beaucoup de temps. Et à mesure que les équipes grandissent, cette partie du temps de travail va être consacrée au management. Et il faut savoir être très disponible pour ces équipes.
Oui, donc on réoriente ses fonctions dans son quotidien plutôt sur le management, hein, c'est ça.
Sur le management, être aussi quelqu'un avec qui accessible à un juriste qui va avoir un doute sur un tel dossier, comment approcher un tel sujet. Il faut être, encore une fois, mentor et mettre son expérience au service des plus jeunes, au service de ceux qui commencent, pour les aider à grandir dans leur fonction.
Oui. Et c'est ce qui vous... C'est un des aspects qui vous...
Motive.
Qui vous motive au quotidien, oui, d'accord, c'est bien ce que j'avais compris, d'accord. Donc, c'est une question d'ambition, de goût, de maturité et d'affinité pour ce rôle managérial.
Pour la pédagogie, tout à fait, entre autres.
Ouais. D'accord. Merci, Nouria, pour ces précisions. Vraiment, c'est très, très intéressant. Hein. Le premier point, c'était le fait que le directeur juridique doit plonger au cœur de l'entreprise.
Oui.
Le deuxième point, c'est qu'il doit quand même, et c'est un juriste à la base, donc il doit connaître son environnement juridique et réglementaire propre au secteur d'activité et aux activités elles-mêmes.
Mm-hmm.
Troisième point, ce sont toutes les soft skills, donc les aptitudes personnelles comportementales qui sont fondamentales pour faire la différence et devenir directeur juridique.
Tout à fait.
Et dernier point, il faut être un leader et un mentor pour pouvoir déceler les potentiels chez ses équipes, chez les membres de son équipe, chez les juristes, pour pouvoir les faire grandir, chacun à leur rythme, chacun en fonction de leurs appétences, les mettre au bon endroit pour qu'ils soient eux-mêmes épanouis. C'est bien
voilà.
Ça.
Voilà.
D'accord. Merci pour ces précisions. C'est très clair, très précis. Et dernière question, Nouria, quel intérêt et valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise? Alors, vous nous en avez déjà dit beaucoup, hein, mais...
Mm-hmm.
Vous pouvez nous apporter encore quelques compléments, on veut bien.
Oui, bon alors je vais essayer, c'est vrai qu'on en a beaucoup dit là-dessus. Maintenant, un juriste business partner hein, qu'on revendique de nos jours, bah, on ne peut le devenir qu'en étant étroitement associé au business. Hein. Une société qui ne positionne pas ses juristes au cœur du business, en fait, il va payer par les biais des salaires, des consultations juridiques moins chères, mais qu'il pourrait avoir en payant un avocat à l'extérieur. Et on pense faire une économie, peut-être. Mais paradoxalement, ça va être une source d'appauvrissement. Et non seulement pour les juristes, parce que le juriste n'a qu'un seul client, qui est son entreprise, et donc ne peut pas s'enrichir avec d'autres expériences. Mais pour la société qui emploie ses juristes, ça serait aussi un appauvrissement, parce qu'un juriste qui ne fait qu'exécuter des décisions prises en amont, ou qui n'est qu'une chambre d'enregistrement, bah, il va finir forcément. À plus ou moins long terme, démotivé. Il va perdre en compétences et puis il va perdre en pertinence et en impact. Et voilà. Donc, ce serait qu'un mauvais investissement d'avoir un juriste qui n'est pas intégré, qui n'est pas associé à la stratégie de l'entreprise, hein, il me semble. Et puis, il faut le rappeler, hein, les juristes en entreprise, contrairement à un cabinet d'avocats, et ce que j'ai dit, c'est absolument pas méprisant du tout pour les cabinets d'avocats, entendons-nous. C'est deux métiers
Oui.
différents. C'est des métiers différents. L'activité de juriste n'est pas des, entre guillemets, vendre du droit, ce qui est un peu, enfin, ce qui est l'activité du cabinet d'avocats. Ils vendent leurs prestations juridiques. Les juristes en entreprise ne vendent aucune prestation juridique. Les juristes en entreprise contribuent à la vente même des produits et des services de son entreprise. Alors, j'ai ma propre métaphore, peut-être un petit peu trop conceptuelle, hein, c'est assez personnel. Pour moi, les droits, et aussi les droits d'entreprise, ce n'est pas un nom au sens grammatical du terme, c'est plutôt un adjectif qui va s'accoler à un nom. Et le nom, dans ce cas-ci, c'est le business. Et
Oui.
donc, c'est vrai qu'encore, aujourd'hui, et puis toujours, et je le ferai toujours, essayer au quotidien de montrer l'intérêt, de faire appel aux juristes de ma direction, le plus en amont possible, en les associant aux débats et aux discussions précédant les décisions stratégiques. Et ne pas les utiliser non plus en tant qu'urgentiste, hein, lorsqu'une catastrophe s'est produite et qu'il faut vite, vite courir devant un juge ou un arbitre. Voilà, donc c'est vrai, Cynthia, à chaque fois que j'arrive à faire participer, par exemple, les juristes de ma direction à des réunions, aux réunions régulières des directions opérationnelles, au même titre qu'un directeur des achats, par exemple, je vois les bénéfices que tirent et la société et les juristes. Et pour moi, ça fait deux heureux, les clients internes et les juristes de ma direction. Je ne sais pas si, voilà, si je me suis bien fait comprendre sur cet intérêt absolu d'associer les juristes en amont et autant que faire se peut à la stratégie de l'entreprise.
Oui, si c'est très clair, l'intérêt et la valeur ajoutée d'associer les juristes en amont, donc sur tous les dossiers stratégiques, avant de prendre les fameuses décisions, on y va, on n'y va pas dans ce sens-là ou dans un autre sens. Le juriste, dès lors qu'il est associé en amont, va forcément apporter sa propre vision tout en comprenant les enjeux stratégiques et financiers derrière et business. Et donc, le juriste recevra forcément de la reconnaissance et aura un plus grand impact puisqu'il va acquérir tout un tas de connaissances au contact de ses business, en fait, du business pur. Donc, il va forcément grandir, acquérir en impact et ses précisions, ses conseils, ses solutions proposées seront forcément de plus en plus adaptées aux enjeux des filiales business. Donc, c'est ce
Exactement,
qu'on entend.
exactement, exactement. Et on est là non seulement pour aider à décider si on y va ou si on n'y va pas, mais comment on y va.
Oui.
Quelle est la meilleure structuration, par exemple, d'un deal?
Oui.
La plus optimisée, la plus sécure, la plus pertinente.
Oui.
Voilà.
Et donc dans ce cas-là, il se sent utile, il se sent à la bonne place, utile, valorisé, reconnu, et la société investit en fait en son juriste pour qu'il croie et qu'il soit de plus en plus compétent finalement.
Voilà, mais tout à fait. C'est un donnant-donnant. C'est un
C'est
donnant-donnant.
donnant de.
Donc,
Exactement.
oui.
Eh bien, merci Nouria pour tous ces éléments et ce partage d'expériences très riche, hein, puisque c'est très agréable pour nous d'avoir ce partage d'un parcours large, d'un parcours riche au niveau international notamment, avec des constructions d'équipes régulièrement, donc des recrutements, des structurations de services, des restructurations également parfois de services que vous venez de faire avec la scission entre direction juridique et direction compliance que l'on commence à voir apparaître. Mmh. Et puis, alors là, on n'a pas eu le temps d'en parler entre nous, mais il y a également tous les aspects de digitalisation hein, que vous avez déjà mis en œuvre et que vous allez encore mettre en œuvre par la suite. Et puis, différents aspects en termes de management, organiser des séminaires juridiques, faire en sorte que vous assistiez vous-même à d'autres séminaires de l'entreprise, etc., pour être intégré au cœur de l'activité également. Donc, merci beaucoup pour tout ce partage, Nouria.
Avec plaisir, hein, Cynthia. C'est un vrai plaisir. J'espère que ça pourra intéresser ou inspirer ceux qui s'intéressent.
Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de personnes vont être inspirées, tout à fait. Merci à vous, Nouria, et très belle journée à vous.
Merci, de même, Cynthia. Au revoir.
Au revoir. Nous nous sommes posés les 5 questions suivantes tout au long de l'épisode et Nouria André nous apporte des réponses précises et claires. Première question, pourquoi le droit ? Deuxième question, pourquoi ce secteur d'activité ? Troisième question, quel a été votre parcours pour en arriver là en qualité de directrice juridique ? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de juriste généraliste ou juriste expert à directrice juridique et acquérir la dimension managériale qui l'accompagne ? Cinquième question, quel intérêt et valeur ajoutée d'avoir une direction juridique associée à la stratégie de l'entreprise ? Maintenant que vous avez eu toutes les réponses de Nouria, je m'adresse à vous, chère juriste talentueuse et chère juriste talentueux. Quelle est la question qui vous a le plus interpellée ? Quels sont les tips et conseils qui vous aident le plus ? En conclusion, l'évolution de juriste généraliste ou juriste expert vers un poste de manager en qualité de directrice ou directeur juridique, est-ce une piste que vous explorez ? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection, dans un premier temps, de lister toutes vos compétences en droit précisément. D'y associer pour chacune des compétences en droit une à deux expériences significatives. De lister vos compétences en négociation et en business précisément, comme le business partner que vous êtes. D'y associer pour chacune une à deux expériences significatives. De lister vos soft skills, notamment en matière de communication, de gestion du stress, de prise de décision, précisément. D'y associer pour chaque soft skills une à deux expériences significatives. De lister vos compétences digitales, notamment en matière de contrat tech et closing, de legal design, de veille réglementaire, précisément. D'y associer pour chaque compétence digitale une à deux expériences significatives avec le nom des outils digitaux utilisés. Puis de lister vos centres d'intérêt qui ne vous demandent aucun effort, c'est-à-dire qui relèvent du plaisir, voire de la passion. Et enfin, posez-vous les questions suivantes au sujet de votre contribution. Qu'aimez-vous conseiller, proposer, expliquer ? Comment appréciez-vous de contribuer à ce jour, dans votre travail, au quotidien ? Avec quels interlocuteurs ? Au sein de votre équipe ? Au sein de la direction générale ? Voilà, vous avez découvert les subtilités de l'évolution du métier de juriste généraliste ou juriste expert vers le poste de directrice juridique à travers ce parcours. Et vous savez qu'une telle évolution est possible et que la vocation peut apparaître et se dessiner au fur et à mesure des expériences au cours de sa carrière en qualité de juriste généraliste ou juriste expert. Vous connaissez également les éléments nécessaires pour devenir directrice juridique. À la clé, développement de soi, découverte, adaptation, apprentissage, enrichissement intellectuel, interaction sociale, responsabilité, épanouissement, valorisation, reconnaissance, confiance et fierté. C'est à vous de jouer, votre avenir vous appartient. Et si vous voulez être accompagné pour cette évolution professionnelle, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois dans les modules 1 et 2. Nous consacrons un mois à définir votre projet professionnel afin d'identifier vos 5 types de compétences, vos atouts, vos forces, vos potentiels et vos valeurs pour construire un cahier des charges précis et viable. Ce cahier des charges contient les conditions à remplir en termes de périmètre du poste, positionnement et rattachement hiérarchique et fonctionnel de la direction juridique, mission et besoins en formation le cas échéant, zone géographique d'intervention, responsabilité, management et structure de l'équipe juridique, niveau de salaire, avantages et autres éléments de rémunération à négocier, Et l'environnement également, c'est-à-dire la distance de votre domicile, les conditions de télétravail éventuellement, les déplacements, la localisation de vos équipes. Puis nous consacrons un mois pour optimiser vos outils de communication et votre personal branding. Ce sont les modules 3 et 4. Nous nous intéressons à votre CV, votre carte d'identité professionnelle, votre profil LinkedIn afin de l'optimiser pour être sélectionné par les recruteurs, votre pitch ou votre présentation, votre vision de la direction juridique et de sa valeur ajoutée au sein de l'entreprise, l'image que vous renvoyez et votre réseau pour pouvoir l'activer. L'objectif est double de cet accompagnement. Il est de mettre en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux des secteurs d'activité et des entreprises que vous souhaitez intégrer. Il est de vous préparer aux entretiens afin de vous présenter, de présenter votre parcours et de présenter votre vision de la direction juridique et de la valeur ajoutée du juriste au sein d'une entreprise par la maîtrise de vos arguments, la maîtrise de votre histoire, la maîtrise de votre parcours, la maîtrise de vos réalisations professionnelles, la maîtrise de vos réussites et la maîtrise de vos résiliences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Enfin, deux tests de personnalité psychométrique vous sont proposés au module 1 et 2. Ce sont des tests complémentaires qui portent à la fois sur votre personnalité, vos valeurs, vos sources de motivation, vos environnements professionnels, vos comportements en milieu professionnel, votre communication et votre leadership. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel mobilité ou par un autre accompagnement individuel, il reste une place en juin, une place en juillet et une place en août, puis 4 places sont ouvertes en septembre pour préparer votre rentrée. En juin, nous commençons le lundi 5 juin. Une place est disponible. En juillet, nous commençons le lundi 17 juillet. Une seule place est disponible. En août, nous commençons le lundi 7 août. Une seule place est disponible. Et en septembre, nous commençons le lundi 4 septembre. Il y a 4 places disponibles. Le process est simple, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr, donc J-U-R-I-N-O-V-A.fr, directement dans mon agenda qui est accessible sur mon site, pour l'entretien exploratoire avec moi-même, qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple, hein. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédiée à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu.
Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants, mille merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous, avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues, et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément, et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert, ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 55, avec un interview sur le sujet suivant, de juriste à consultante en communication digitale, une reconversion professionnelle. Et j'accueillerai avec plaisir Manon Morales, ex-juriste et consultante en communication digitale, fondatrice de Make My Words. Elle nous partage son parcours et sa reconversion professionnelle. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux, prenez soin de vous. Bye bye!